Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Bonjour Stanislas Dehaene.
Bonjour.
Vous êtes neuroscientifique, professeur au Collège de France, président du Conseil scientifique de l'éducation nationale. On vous doit notamment le rapport « La science au service de l'école » paru chez Odile Jacob. Et si nous avons choisi de vous inviter, c'est notamment parce qu'aujourd'hui se pose la question de la fermeture des écoles. C'est par exemple la une du Parisien avec ce que le Parisien appelle l'angoisse des parents. De nombreuses voix redoutent les effets des fermetures de classes. Quel bilan faites-vous, Stanislas Dehaene, de cette année si particulière, notamment pour les élèves, les collégiens, les étudiants?
Bien, écoutez, je viens vous parler évidemment de pédagogie, de plasticité du cerveau. Et de ce point de vue-là, je voudrais commencer par rappeler à quel point l'éducation joue un rôle absolument fondamental et à quel point on a raison de mettre en balance la sévérité dramatique de l'épidémie, évidemment, avec l'importance de l'éducation pour le cerveau de nos enfants. Alors, il faut distinguer la situation internationale et la situation française, parce que pour une fois, notre pays ne s'en sort pas mal du tout. Sur le plan international, on a un rapport récent de l'UNESCO qui a comptabilisé les heures perdues, les jours perdus de scolarité, et qui estime que c'est 54% de la scolarité en moyenne qui a été perdue sur moins d'un an, puisque c'était à la date du 11 novembre 2020. Donc probablement plus de 54% des journées d'éducation perdues au niveau mondial. Alors il y a une variabilité évidemment énorme, ça va de 0 à 100% de fermeture. L'UNESCO estime l'impact sur les enfants, notamment en CE2 sur la lecture, puisque c'est un des objectifs d'atteindre un niveau de littératie, de niveau de lecture au niveau mondial. Et elle estime que ça va faire basculer en CE2 14 millions d'enfants sous le niveau de lecture désiré. C'est-à-dire un recul de l'ordre de 20% par rapport d'un facteur 20, par contre, d'un recul de 20 ans sur les objectifs qui étaient progressivement atteints par l'UNESCO d'augmenter la littératie dans le monde. Donc vous voyez que c'est un impact absolument majeur. On ne parle pas de petites choses. Il faut le comprendre, on peut le comprendre quand on regarde la biologie du cerveau. Le cerveau humain est très particulier parce qu'il a une plasticité cérébrale très étendue tout au long de l'enfance, et notre enfance est très étendue. On peut dire que ça va jusqu'à l'adolescence et un petit peu au-delà. Mais cette plasticité, malgré tout, n'est pas éternelle, elle se ferme progressivement, pas complètement non plus. On parle de périodes sensibles, il y a donc des périodes sensibles dans l'enfance, et ça dépend un petit peu des domaines, mais dans le domaine du langage en particulier, ces périodes sensibles sont assez précoces. Il faut apprendre rapidement dans les premières années de la vie. Ça commence dès la naissance, pratiquement, donc le rôle des parents dans ce domaine est évidemment essentiel. On sait que, par exemple, à 3 ans, les enfants, selon le milieu socio-économique, selon ce que font les parents, vont être exposés à des différences de l'ordre de 30 millions de mots en plus ou en moins entendus. Et il y a des expériences d'imagerie cérébrale qui montrent que ça a un impact direct sur le cerveau de l'enfant, sur l'organisation des circuits. Dans mon propre laboratoire, on a mené des expériences sur l'apprentissage de la lecture et on voit l'inscription de l'apprentissage de la lecture sous forme de modification des circuits cérébraux, modification des connexions, renforcement des connexions du système linguistique. Au-delà de ça, l'apprentissage dans l'espèce humaine, et l'éducation, c'est un apport absolument considérable à toutes sortes de niveaux. On a passé ça en revue avec le Conseil scientifique dans un rapport qui s'appelle « Quel professeur au XXIe siècle ?» et qui envisage l'éducation du futur, mais aussi les bienfaits déjà connus de l'éducation, sur l'épanouissement de l'enfant, bien entendu, mais aussi sur la santé. Et aussi tout simplement sur le bien-être. C'est extrêmement intéressant de voir que il y a une corrélation très étroite entre le bien-être émotionnel à l'école et le bien-être futur. Et une scolarisation heureuse, ça veut dire un niveau de bonheur futur plus élevé. Donc vous voyez que c'est extrêmement important. Et on a raison de discuter et d'insister sur la possibilité d'ouvrir les écoles au maximum en dépit d'une épidémie qui, je le répète, est évidemment tout à fait sévère, spécialement en ce moment.
Bon, mais alors, on va évidemment y revenir, Stanislas Dehaene, mais ça signifie, parce que c'est un peu inquiétant pour nous adultes quand vous dites que les processus d'apprentissage âge se font particulièrement de manière précoce, même si, évidemment, on en a largement l'intuition. Ça veut dire que tout se passe avant 3 ans, avant 10 ans. Bref, quelles sont les différentes étapes pour l'enfant, l'adolescent, les étapes et les âges qui vous paraissent être des âges charnières, en quelque sorte?
On est revenu sur l'idée d'une période critique qui se fermerait en disant tout se joue avant 3 ans. Ça ne marche pas comme ça. C'est un processus beaucoup plus continu. Le cerveau, d'ailleurs, commence par surproduire des synapses. Et il y a donc, dans certaines régions, 2 fois plus de synapses chez les petits-enfants qu'à l'âge adulte. Donc, il va y avoir une élimination synaptique. Et cette élimination se produit dans une courbe progressive, qui, dans les régions visuelles, va commencer à se produire vers 1 ou 2 ans. Et dans les régions frontales, par exemple, les plus avancées de notre cerveau, celles qui sont associées au processus de rationalité, de réflexion, d'évaluation, eh bien, elle va se produire beaucoup plus tardivement et lentement jusqu'à la puberté, jusqu'à l'adolescence. Donc, je ne veux pas non plus vous paniquer. Et puis, il est évident qu'à l'âge adulte, on continue de pouvoir apprendre un certain nombre de choses. Mais il y a des domaines dans lesquels ça se ferme. Il ne faut pas non plus paniquer. Hein. Mais ça veut dire qu'on a une marge importante de plasticité cérébrale. Et notre système scolaire s'est inscrit là-dedans. C'est très intéressant de voir que notre société, progressivement, au fil des millénaires, a découvert qu'il était utile d'introduire une sorte de renforcement de l'environnement de l'enfant pendant cette période et finalement de créer l'école.
Bon, mais alors, maintenant, Stanislas Dehaene, on est tous convaincus de l'importance de l'école et de l'apprentissage, bien entendu. Cet apprentissage, il peut se faire hors de l'école, puisque aujourd'hui, il y a un certain nombre de pays qui ont poursuivi les processus d'apprentissage, même si c'était en visio, par le biais donc de différents procédés fondés sur les écrans. Qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui là-dessus? Qu'en est-il de ces processus d'apprentissage quand ils sont poursuivis par le biais donc de téléconférences, par exemple?
On n'a pas énormément de données, très honnêtement, les données dont nous disposons suggèrent que ça ne marche pas aussi bien. D'abord, il y a une organisation, évidemment, le système scolaire, c'est très difficile pour les parents de parvenir à organiser la même qualité d'enseignement, et je pense qu'il faut ici saluer le travail des enseignants, qui est vraiment tout à fait particulier pour arriver à fournir aux enfants le meilleur au meilleur moment. Et on sait également que le cerveau de l'enfant est un cerveau éminemment social. Il a besoin à la fois de la présence d'un enseignant, d'un maître. Il sait la relation particulière qu'il y a d'enseignement, ça c'est très intéressant. Notre cerveau est probablement le seul parmi toutes les espèces animales à avoir une éducation explicite, c'est-à-dire un cerveau A qui écoute attentivement un cerveau B et un cerveau B qui fournit au cerveau A les éléments dont il a besoin pour progresser. Vous voyez. Les autres espèces imitent, mais n'ont pas cette notion d'enseignement systématique. Alors notre cerveau, lui, attend une interaction sociale. Il y a des expériences extrêmement jolies qui montrent, par exemple, que si vous utilisez un ordinateur pour simplement exposer un enfant à du chinois, avec une magnifique vidéo de quelqu'un qui parle très bien le chinois, à la fois audio et visuel, ça ne marche pas. Ça ne suffit pas. En tout cas, à un petit âge, cette expérience est faite entre 10 et 12 mois, ça ne suffit pas pour que l'enfant apprenne les phonèmes du chinois.
Mais alors ça, justement, comment l'explique-t-on? Pardonnez-moi, comment l'explique-t-on, Stanislas Dehaene? Qu'est-ce qui peut faire que le processus d'apprentissage, y compris en face à face, bon, ça n'est évidemment pas possible pour une classe, mais comment cela se fait-il que la relation qu'on peut avoir avec une personne via un écran n'est pas la même qu'avec cette même personne en présence de cette personne?
C'est une très bonne question et ça n'est pas encore résolu. On peut penser à beaucoup de facteurs. Hein. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on n'arrivera pas à les imiter un jour sur ordinateur, mais il faut des facteurs supplémentaires. Alors, l'un d'entre eux, c'est certainement l'attente. Je sais qu'il y a en face de moi quelqu'un qui connaît et qui va m'enseigner. Et très tôt, le cerveau de l'enfant est très attentif aux indices qui montrent que quelqu'un sait plus que lui. Ce qu'on appelle la métacognition ou la théorie de l'esprit, savoir que quelqu'un d'autre sait mieux que moi. Voyez ça, évidemment, on n'applique pas forcément ce critère-là à l'ordinateur. Deuxième chose très importante, c'est la contingence. On prend des tours de parole, on alterne et la personne répond à la demande de l'enfant. Elle est attentive aux besoins de l'enfant. C'est ce que fait un bon enseignant. Et je ne voudrais pas négliger non plus les interactions entre les enfants eux-mêmes. Ça, c'est très important et c'est probablement sous-exploité dans l'école française. Il y a beaucoup d'expériences qui montrent que le tutorat entre enfants un enfant qui en aide un autre, eh bien les deux enfants en bénéficient. Et c'est quelque chose qu'on devrait utiliser plus, je pense, dans nos écoles, parce que ça fait progresser évidemment l'enfant qui est le moins avancé, mais ça fait aussi progresser l'enfant qui est le plus avancé, qui peut synthétiser dans sa tête les connaissances, qui se rend compte qu'il ne sait pas forcément les exprimer au mieux, et donc qui progresse.
La notion de métacognition, le fait de reconnaître que quelqu'un sait plus que vous, ça, c'est un élément essentiel dans les processus d'apprentissage parce que on a aussi l'impression que c'est parfois quelque chose qui se perd à des âges plus avancés, mais que cela peut se perdre, Stanislas Dehaene.
Il faut distinguer théorie de l'esprit et métacognition. Théorie de l'esprit, c'est-à-dire connaissance d'autrui, arriver à se représenter autrui et comprendre qu'il n'a pas forcément les mêmes idées que vous. Et puis, métacognition, connaissance de moi-même, connaissance de ce que je sais, connaissance de mes propres processus d'apprentissage. Les deux sont essentiels à l'éducation. Et notamment sur la métacognition, dans le petit livre « La science au service de l'école », il y a un rapport de Joël Proust sur ce sujet qui montre l'importance absolument fondamentale et là encore peut-être sous-exploitée dans l'école française de la notion de confiance en soi. Voilà. Pourquoi est-ce que je vais aller apprendre ? Pour apprendre, il faut que je fasse des efforts considérables. Je ne vais les faire que si je comprends le but de l'apprentissage et que j'ai envie d'atteindre ce but. D'accord ? Si je pense que je suis nul, que je ne vais pas y arriver, que ça n'a pas d'importance pour moi, ben je n'ai pas de raison de m'engager dans l'apprentissage. Donc, l'engagement dans l'apprentissage dépend, dans une mesure déterminante, de la confiance que j'ai dans ma propre capacité d'apprendre et dans mon envie d'apprendre. Et on peut montrer, par des expériences, que c'est éminemment flexible. Ma confiance en moi n'est pas permanente. Évidemment, si je reçois des mauvaises notes, ma confiance en moi va diminuer. J'ai l'impression que je ne peux pas apprendre. Je veux non seulement me rendre compte que cette leçon particulière, je ne la connais pas, d'accord, mais surtout, jour après jour, que je ne suis pas capable de suivre. Et c'est une conclusion dramatique pour les enfants. Alors, la recherche montre qu'on obtient des résultats scolaires bien meilleurs lorsqu'on explique à l'enfant que le cerveau est plastique et que tout le monde peut apprendre. C'est un modèle positif de l'apprentissage. C'est pas un modèle qui dit « t'es doué, t'es pas doué », et si t'as des mauvaises notes, c'est que t'es pas doué. C'est un modèle qui dit « tout le monde va progresser, jour après jour ». Un petit peu comme en musique, vous apprenez du violon, eh bien, tous les jours, vous progressez. On vous dit pas dès le départ « tu es mauvais, t'arrives pas à jouer du violon ». Non, on vous prend par la main pour vous faire progresser. Donc, c'est cet état d'esprit-là qui joue une sorte de boucle rétroactive positive. J'obtiens confiance en moi parce qu'on me fait confiance, parce qu'on m'explique que je dois avoir confiance en moi. Et on montre que les enfants à qui on explique cela vont progresser plus vite dans l'apprentissage.
Oui, alors ça, c'est sur ce que l'on sait, mais justement, la sensation de ne pas savoir, et c'est un thème qui est vraiment présent dans l'actualité. On en a parlé ce matin avec l'information scientifique lorsqu'il était question de science et vie. Je parlais de cet article qui a été moqué dans Le Monde où il était question de l'ultra-crépidarianisme du président, lequel se prendrait pour un épidémiologiste. Stanislas Dehaene, c'était dans le journal Le Monde hier. Et on a la sensation que dans cette crise sanitaire, avec différentes théories alternatives, avec également des contre pas toute orthodoxe sur le plan scientifique, beaucoup de gens ont la sensation d'en savoir plus qu'ils n'en savent. En réalité, est-ce que le savoir de son non-savoir est quelque chose qui décline dans l'école aujourd'hui, dans les processus d'apprentissage ou dans la société ?
On vient au Conseil scientifique de publier un rapport que vous pouvez trouver sur le site du Conseil, sous la plume d'Elena Pasquinelli et Gérald Bronner, qui s'appelle « Éduquer à l'esprit critique ». Et qui pose des bases théoriques et des indications pratiques pour enseigner l'esprit critique. Parce qu'effectivement, il faut à la fois ni surestimer ni sous-estimer ce qu'on sait. Il faut arriver à jauger les connaissances et à jauger aussi la confiance qu'on peut avoir dans les connaissances d'autrui. Ça ne va pas de soi, c'est pas évident. C'est un vrai processus de réflexion rationnelle. Est-ce que ce qui m'est proposé, il y a suffisamment de preuves en faveur de cet argument ? Est-ce que la source est fiable ? Est-ce qu'elle me présente des arguments rationnels ? Est-ce qu'il y a des graphes mathématiques ? Est-ce qu'il y a des données en faveur de cette hypothèse ? Donc nous proposons que ça fasse l'objet d'un enseignement, non pas sous forme d'un cours particulier, hein, mais d'une sorte d'infiltration de l'esprit critique et de l'esprit scientifique, puisque finalement il s'agit de ça, hein, à l'intérieur des différentes disciplines. En français, par exemple, on peut tout à fait apprendre à raisonner. C'est un objectif très important de l'enseignement de la langue française, d'arriver à se servir de l'outil de la langue pour distinguer des croyances, des connaissances, pour distinguer les différents degrés de connaissances et avoir le vocabulaire pour en parler. Vous voyez. Et évidemment, bien sûr, les mathématiques sont au cœur de cet esprit critique. Alors, on en parlera peut-être plus tard, mais il est essentiel que nous arrivions à monter le niveau mathématique de notre pays si on veut arriver à un pays où les enfants, les futurs adultes, aient un esprit critique et soient capables de se rendre compte de ce qui est scientifique et de ce qui ne l'est pas.
Oui, mais alors, je ne vais pas vous taquiner, Stanislas Dehaene, en vous demandant si vous avez des certitudes sur le doute, mais on a la sensation que beaucoup d'entre nous doutent de moins en moins. Ça se voit vraiment avec la question donc des vaccins, par exemple, avec la question donc de prendre des décisions pendant cette pandémie. À la fois, il faut avoir des certitudes, mais il faut aussi avoir des certitudes sur son non-savoir. Est-ce que ça décline? Est-ce que les méthodes d'apprentissage antérieures favorisaient plus le doute, même si elles servaient moins la confiance en soi?
Je ne crois pas, mais je crois que évidemment la période de l'épidémie est tout à fait particulière parce que elle déstabilise l'ensemble de notre société. Elle nous fait douter de nous-mêmes, on ne voit plus la suite, on a du mal à voir de semaine en semaine où on va, qu'est-ce qui va se passer. Donc c'est une période de grand doute et quand on a une période de doute comme ça, je crois que le rôle d'un conseil scientifique comme le nôtre, c'est de revenir aux données, d'arriver à fournir le plus possible un caractère objectif sur ce qui se passe. C'est ce que fait le Conseil scientifique de l'éducation nationale que je préside, c'est ce que fait l'autre conseil scientifique sur l'épidémie. Essayer de donner simplement où on en est quantitativement, sous forme de graphes. J'insiste beaucoup sur le rôle des graphes mathématiques, parce que je pense que c'est une invention absolument merveilleuse, qu'on sous-estime, la capacité de percevoir en un clin d'œil, quand on a appris les compétences nécessaires, un très vaste ensemble de données. Parce qu'elles sont bien présentées, on peut comprendre un millier de données d'un coup, d'un clin d'œil, comprendre la forme d'une courbe, comprendre si ça va monter, si ça va descendre. Mais encore faut-il avoir les outils mentaux pour cela. Il y a par exemple une difficulté de compréhension des courbes exponentielles.
Ah oui, ça, on va en reparler
je dirais
effectivement
pas
dans
qui,
quelques
mais.
instants, parce que là, effectivement, la compréhension des courbes exponentielles, même la compréhension des courbes, je crois qu'il y a eu un président qui parlait d'inversion de la courbe, une notion qui était mal comprise par les mathématiciens et les physiciens les plus pointus qui n'avaient jamais vu une courbe s'inverser. On va en reparler dans
J'ai
une vingtaine
entendu.
de minutes. Stanislas Dehaene. On en reparlera tout de suite après le journal. Je rappelle que vous êtes professeur au Collège de France, président du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Vous avez notamment publié La science au service de l'école. 8 heures sur France Culture. Notre invité, Stanislas Dehaene, vous êtes en duplex avec nous. Vous êtes neuroscientifique, professeur au Collège de France et président du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Vous nous avez expliqué à quel point l'école était importante, mais comme l'école n'est évidemment pas une île et qu'il y a différents paramètres à mettre en œuvre, eh bien je vous repasse la patate chaude aujourd'hui, puisqu'il s'agit de savoir si oui ou non il faut fermer l'école, quels sont les conseils à donner, comment justement peser les choses sans se lancer dans l'ultra-crépidarianisme, comme le dit Étienne Klein, c'est compliqué à dire, mais ça signifie comment se lancer dans une expertise sans dépasser justement ses capacités, son savoir véritable.
Je crois que dans ce domaine, la formation scientifique est absolument essentielle. Et personnellement, évidemment, sans confondre scientifique et politique, je pense que ce serait très intéressant qu'il y ait plus de scientifiques en politique. Je pense que la formation scientifique vous donne un certain nombre d'atouts dans ce type de situation. Un des atouts, c'est la capacité de regarder les données en face et d'avoir une curiosité pour les vraies données, celles qui sont les plus fiables. Un deuxième atout, c'est la capacité de confronter l'incertitude. Je crois que c'est un enjeu très important de l'éducation à l'esprit critique, à l'esprit scientifique, de savoir douter, mais pas de tout, de savoir accorder sa confiance à bon escient et d'avoir une notion d'incertitude autour des données. Et puis, il y a un troisième atout, c'est la notion de modèle scientifique. Et je crois que c'est quelque chose qui n'est pas très bien compris, ça, du grand public. Peut-être parce qu'il y a une ambiguïté sur le terme modèle. On pense à un modèle, c'est une sorte d'idéal que l'on souhaiterait atteindre. Mais en science, ce n'est pas du tout ça. Un modèle, c'est une simplification, et il peut y en avoir beaucoup, on fait typiquement plusieurs modèles, une simplification qui permet de comprendre un système et de faire des prédictions et de le manipuler mathématiquement. Donc vous voyez, il y a une ambiguïté sur ce terme modèle qui, je pense, a du mal à passer dans l'esprit du grand public, mais pour un scientifique, un modèle, c'est juste un outil qui peut être rejeté par les données, un modèle peut faire des erreurs, mais plusieurs variétés de modèles étaient proposées fin janvier, et moi je crois savoir que certains d'entre eux n'étaient pas si loin que ça de la réalité. On entend des choses
très curieuses.
Le problème,
c'est de savoir lequel. Parce
oui,
que, a posteriori, c'est effectivement probablement le cas, mais sur le moment, Stanislas Dehaene.
Oui, bien sûr, évidemment, ça fait partie de la difficulté de la modélisation mathématique. Et dans un domaine, honnêtement, l'épidémiologie qui est aux confins des sciences humaines et des sciences dures, de la médecine, de la biologie, c'est très très difficile. C'est un des domaines les plus difficiles. Vous savez, Richard Feynman se moquait parfois un petit peu des sciences sociales, mais il disait aussi, c'était le prix Nobel de physique, hein, il disait, vous savez, les physiciens ne devraient pas se moquer de ces autres domaines parce qu'en fait, les physiciens ont pris tous les problèmes faciles. Et c'est pas complètement faux, hein. C'est-à-dire que la physique a quand même des lois extrêmement rigoureuses. Les sciences humaines et sociales, l'éducation, ce sont des domaines dans lesquels les choses sont beaucoup plus difficiles à maîtriser parce qu'il y a une sorte de rétroaction. Les êtres humains réagissent à leur environnement et quelque part brouillent ces lois. La même chose en économie, évidemment. Alors cela dit, on peut quand même dire énormément de choses, hein, sur la situation actuelle. Je ne sais pas si vous voulez quelques données sur la situation de la France actuellement en réaction à l'épidémie. Oui. Parce que un des grands atouts, je pense, de la situation française, c'est qu'on dispose d'excellentes données. Maintenant, tout ça est mis entre les mains des enseignants. Vous savez qu'il y a un programme qui a été mis en place par le département d'évaluation de l'éducation nationale en lien avec notre conseil scientifique pour mieux évaluer rapidement, en début d'année, les compétences des enfants. Et ça se fait en CP, en CE1 et en 6e. Et le but de ce programme qu'on appelle EvaLED, c'est évaluer pour mieux aider, c'est-à-dire évaluer à un moment où on peut encore aider les enfants, contrairement aux enquêtes TIMSS ou PISA qui portent sur les statistiques et qui sont assez tardives, typiquement par exemple en 4e pour l'enquête TIMSS sur les maths. Eh bien là, on est dans des enquêtes de proximité pour chaque enfant, arriver à déterminer ce qui va, ce qui ne va pas et permettre à l'enseignant de s'en emparer pour réagir tout de suite. Alors, la bonne nouvelle, c'est que depuis 3 ans qu'on a les mêmes évaluations cognitives sur les maths et sur la lecture en début de CP, en début de CE1, eh bien, on voit des progrès. Et bien entendu, on a été tous extrêmement inquiets à la suite de la période Covid, puisqu'il y a quand même eu fermeture des écoles, même s'il y a eu continuité pédagogique. On était pas mal préparés avec la France, avec le CNED en particulier. Il y avait un certain nombre d'outils qui étaient déjà en place pour l'éducation à distance et qui ont servi, hein, dans cette période. Et puis un engagement absolument remarquable des profs et de toute la société. On peut souligner le rôle des médias aussi, hein. Donc, quels sont les résultats? Eh bien, en septembre, il y a eu un certain recul, mais pas si énorme que ça. Et en sixième, on a même vu en fait une continuité des progrès des enfants par rapport à l'année précédente, en dépit de la période de l'épidémie. Et maintenant, on a des évaluations de mi-CP, c'est-à-dire au milieu de la première année d'école. Et les élèves qui avaient un petit peu de retard en début d'année ont pratiquement tous rattrapé et on constate des progrès par rapport à l'année précédente. C'est vrai en maths, c'est vrai pratiquement partout, sauf, et malheureusement ça c'est un des gros problèmes de l'école française, dans les réseaux d'éducation prioritaire les plus déficitaires. C'est-à-dire qu'on a encore un très gros problème d'inégalité. Et comme on le craignait, hein, l'école française, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays, a fait augmenter les inégalités avec la période Covid. Donc ça, c'est un point de vigilance. Il faut absolument investir plus dans l'éducation prioritaire et investir plus dans les mathématiques. Mais disons que la courbe sur les 3 dernières années me rend plutôt optimiste. On est en train de commencer peut-être une remontada. Voilà. Alors, par contre, il faut considérer l'état absolu des choses. Et là, je voudrais quand même rappeler l'urgence absolue qu'il y a à investir plus dans nos écoles et dans nos professeurs.
Mais alors, parce que la question qui se pose aujourd'hui, Stanislas Dehaene, est de savoir s'il faut ou non fermer les écoles. Alors, peut-être pas toutes les écoles, parce que justement, puisque vous évoquez la question donc des processus d'apprentissage aux différents âges, il se pourrait effectivement que pour les plus petits, la présence d'un enseignant soit essentielle, mais à partir de quel âge on pourrait s'en passer en présentiel, comme on dit maintenant? Est-ce que là aussi, on peut avoir des données à ce sujet?
Je n'ai pas de réponse à cette question. Je pense que la cohésion sociale est extrêmement essentielle à tout âge, évidemment à l'adolescence aussi, hein. On n'apprend pas bien si on est déprimé, si on est anxieux. Je voudrais rappeler d'ailleurs qu'il existe beaucoup de statistiques également hein, sur ce domaine de la confiance en soi, de l'anxiété, tout ce qu'on appelle en anglais les soft skills, c'est-à-dire les compétences socio-comportementales qui nous rendent bien dans notre peau et qui ont,
nous socialisent.
La socialisation et l'envie d'agir par soi-même. La France se situe systématiquement parmi les derniers rangs dans ce champ de compétences. Confiance en soi, la France est 62e sur 65. Anxiété des élèves avant d'aller à l'école, 62 sur 65. Contrôle sur la réussite, ça c'est très intéressant. Est-ce que c'est grâce à moi que je vais réussir à progresser ou bien est-ce que c'est grâce à des circonstances extérieures? Eh bien, contrôle perçu sur la réussite, 58 sur 65, la France a le 58e rang, vous voyez. Résolution collaborative de problèmes, c'est un domaine sur lequel on n'est pas très bon, arriver à collaborer entre élèves pour résoudre un problème, c'est une compétence essentielle pour l'avenir, évidemment. Eh bien, là encore, la France est 49e sur 60, vous voyez. Donc, on a toute une série de domaines socio-comportementaux qui dépendent de la présence à l'école, qui dépendent de la collaboration entre élèves, qui sont des domaines sur lesquels on a énormément de progrès à faire. Mais ça veut dire aussi que même hors période d'épidémie, il faut sans doute qu'on change notre école, qu'on ait une école qui fasse beaucoup plus attention au bien-être des enfants, au bien-être des enseignants et à la confiance mutuelle enfants-enseignants, élèves-enseignants.
Mais alors ça, on va en reparler, mais justement, un épidémiologiste disait hier qu'il fallait également prendre en compte l'anxiété des collégiens, des lycéens, je parle d'eux parce que pour les plus jeunes, c'est probablement ou peut-être moins le cas, disent les mêmes épidémiologistes qui pouvaient contaminer leurs proches avec le Covid. Est-ce que cette anxiété-là, on peut aussi en tenir compte, Stanislas Dehaene, quand il s'agit de savoir si les écoles doivent rester ouvertes ou bien fermées?
Bien sûr, moi je n'ai pas connaissance de données sur ce sujet, donc je ne peux pas en parler très profondément.
Non, il n'y avait pas de données hier qui étaient évoquées par cet épidémiologiste. En revanche, il y a un climat, on voit bien que ce climat diffus, il est partout dans la société, et cela, eh bien, il faut également en tenir compte.
Bien entendu, oui. Je pense que ce qui est très difficile, c'est d'arriver à comparer la situation d'un élève qui va à l'école et la situation d'un élève qui ne va pas à l'école. S'il ne va pas à l'école, il fait quoi? Il reste enfermé dans sa chambre tout seul, ce qui est dramatique, évidemment, sur le plan psychologique. Probablement non. Donc, il sort, il va voir d'autres copains, ils sont proches, ils enlèvent les masques. Donc, est-ce qu'on a des données qui suggèrent que la situation est pire quand on va à l'école ou quand on reste à la maison? C'est ça, la vraie question. Moi, je n'ai pas la réponse, je suis pas épidémiologiste. Mais je pense que c'est évidemment cette question-là qu'il faut se poser. Ce serait bien d'avoir des données là-dessus.
Et aujourd'hui, lorsqu'il est question, justement, de ces processus d'apprentissage, de toute façon, dans un climat d'anxiété, dans un climat étrange, parce que même si vous dites, Stanislas Dehaene, que les écoles sont restées ouvertes, en réalité, les choses ont quand même été très heurtées l'an dernier. Il y a eu une période de fermeture, puis une période de réouverture, mais celle-ci n'était pas complète pour tous les élèves. Depuis la rentrée, il y a peu de semaines qui étaient des semaines normales pour les élèves, qu'ils soient d'ailleurs à la petite école en maternelle ou bien pour les collégiens et les lycéens. Est-ce que ça, on est capable de le mesurer ou est-ce que vous dites de toute façon que c'est mieux que rien ou mieux que la totalité en distanciel, comme on dit là aussi?
Je pense que toute présence à l'école est mieux que rien, effectivement. Je pense que le distanciel est quand même extrêmement intéressant aussi parce qu'il permet aux élèves d'apprendre en autonomie et donc d'apprendre à apprendre. Mmh. Mobiliser à un certain moment leur volonté pour apprendre. Et bien sûr, ça oblige aussi les enseignants à un surcroît d'efforts qui est non négligeable, mais qui les oblige à créer des outils qui sont attrayants pour les élèves, qui leur donnent envie d'y aller. Hein. Tout ceci peut avoir des conséquences extrêmement positives sur notre système. Je voudrais aussi rappeler que notre conseil scientifique a publié en mai 2020 des recommandations pédagogiques pour le confinement et sa sortie, qui restent absolument d'actualité, qui peuvent aider à la fois les enseignants et aussi, je dirais, les parents, hein, à organiser des pratiques pédagogiques pour que l'apprentissage continue. Alors que c'est vrai, bien sûr, il y a des difficultés, il y a quelques écoles qui sont fermées, c'est un petit pourcentage, mais évidemment, pour ces enfants-là, c'est compliqué, pour les parents aussi. Donc, il y a toute une série de recommandations pédagogiques qui sont évidemment valables de tout temps, qui sont des propriétés de l'apprentissage dans notre cerveau. Par exemple, apprendre un petit peu tous les jours. se servir des périodes de sommeil. Ça, c'est très intéressant. On dispose maintenant de nouvelles données qui confirment que réviser une leçon avant de s'endormir, ça fait travailler le cerveau pendant la nuit et ça permet de consolider les apprentissages, de se réveiller avec un apprentissage qui est non seulement meilleur sur le plan de la mémoire, mais aussi plus profond, plus structuré. Le cerveau, pendant la nuit, structure les informations. Et on peut l'envoyer dans une certaine direction en révisant avant de s'endormir. Il y a aussi des informations sur la répétition, le fait de faire des exercices. Une idée très claire venue des sciences cognitives, c'est qu'on apprend mieux lorsqu'on alterne de brèves périodes d'enseignement formel. On a une démonstration, un cours, et puis des exercices qui portent immédiatement sur la mise en application de ces connaissances. Et si on alterne cours, exercice, sans faire de cours magistral pendant 50 minutes, mais en mettant les élèves dans une situation d'engagement actif, d'engagement de l'attention, eh bien, on a de bien meilleurs résultats. Donc ça veut dire, par exemple, en distanciel, avoir des QCM, des choses aussi bêtes que ça, des questionnaires à choix multiples, qui oblige l'enfant à se dire « mais est-ce que je connais ce point-là ? Ah, je fais une erreur. » Alors ça veut dire aussi restaurer un statut normal de l'erreur. Et c'est un point extrêmement important pour notre école. L'erreur est normale. On n'a pas à punir les élèves pour leurs erreurs, implicitement ou explicitement. Ça peut être implicite avec des mauvaises notes, des zéros. Ça n'est pas productif. L'erreur est normale. L'erreur doit simplement faire l'objet d'une information. Non pas d'une punition, mais d'une correction sous forme d'une information. C'est ici, précisément, qu'il y a eu une difficulté et que tu t'es trompé. Voilà pourquoi. Et de ce point de vue-là, le cerveau, en permanence, échange des signaux d'erreur qui permettent de corriger les représentations mentales. Donc, il faut qu'on arrive à une situation où ces connaissances pédagogiques sur le statut de l'erreur, sur le statut de la répétition, sur le statut des exercices, sur le rôle du sommeil, soit connu de tous. Il y a donc tout un travail aussi à faire pour notre école sur la formation des enseignants. Et c'est un domaine sur lequel notre conseil scientifique travaille beaucoup. Hein. Comment faire en sorte que tout ceci passe dans la formation initiale et continue des enseignants?
Mais alors, les adultes aussi ont bien du mal à reconnaître leurs erreurs. Il y a déjà eu d'ailleurs beaucoup de commentaires à ce sujet, en particulier sur la classe politique. On comprend mal pourquoi le président de la République, d'autres dirigeants, d'ailleurs Stanislas Dehaene, ont du mal à reconnaître que dans ce climat aussi compliqué, eh bien, on fait nécessairement des erreurs. Est-ce que ça aussi, ça n'est pas un mauvais exemple pour la jeunesse ?
Je ne sais pas quoi vous répondre. C'est pas facile, évidemment, de reconnaître ses erreurs. Il y a sans doute deux sortes d'erreurs. Lorsqu'on apprend, c'est tout à fait normal de faire des erreurs. Évidemment, lorsqu'on est censé savoir, c'est plus difficile parce que avoir fait une erreur, ça veut dire méconnaître un domaine qu'on devrait connaître. J'ai entendu, on parlait tout à l'heure des courbes exponentielles pour l'épidémie.
Ah oui.
Et j'ai entendu un homme politique qui disait « la courbe n'est pas exponentielle en ce moment parce que ça n'augmente que de 10% par semaine ». 10% par semaine, c'est une exponentielle. C'est pas parce que le coefficient est relativement petit que ça n'est pas une exponentielle.
Oui, il y avait aussi une incompréhension des échelles logarithmiques.
Absolument.
Qui expliquait que les courbes étaient fausses parce que les chiffres en bas n'étaient pas les bons.
On voit des courbes, honnêtement, dans les médias, sur certaines chaînes de télévision qui sont absolument ridicules, dans lesquelles les chiffres ne sont pas dans le bon ordre, il manque des mois. Enfin, moi, je fais très attention à ça. Je pense que c'est tout un domaine qu'on appelle en anglais « graphicacy », un petit peu comme « literacy », c'est-à-dire de la même manière qu'on devrait savoir lire, on devrait savoir lire des graphes et faire attention à tous ces détails. Et c'est un domaine sur lequel on travaille au laboratoire, effectivement pour tout le monde. Les exponentielles posent des problèmes. Le cerveau a une tendance à préférer le linéaire, ce qui va continuellement avec un coefficient fixe.
Oui, donc mais la limite de tout cela, Stanislas Dehaene, c'est une forme de cantophrénie, c'est-à-dire l'illusion de croire qu'à partir du moment où un phénomène est chiffré et quantifié, il est scientifique, alors qu'en réalité, on est envahi par des indicateurs qui ont tous des biais, ces biais ne sont pas interrogés, et à partir de ce moment-là, il est compliqué de prendre toutes les courbes. Je ne dis pas que certaines courbes ne sont pas fidèles, mais on voit bien qu'on a affaire à des indices synthétiques qui sont fabriqués, parfois bricolés. Pourquoi devrait-on les prendre pour chiffres comptants, si j'ose dire ?
C'est un petit peu, la science est un petit peu comme la météo. La météo, à la télévision, il y a un présentateur qui vous explique. Il ne vous contente pas de vous envoyer les données brutes. Et on a besoin de ça en science. On a besoin de médiateurs qui sont capables d'interpréter les données, de vous expliquer que là, il faut faire attention parce qu'il y a un retard. Par exemple, c'est le cas souvent dans l'épidémie, il y a un retard de quelques jours sur la remontée des informations, que là, il y a eu un week-end ou un jour férié, etc. Il y a d'excellents médiateurs scientifiques sur Twitter en particulier. On trouve des informations extrêmement précieuses qui vous aident à comprendre ce qui se passe réellement. Alors, c'est la même chose dans le domaine de l'éducation. Quelque part, c'est le rôle de notre conseil scientifique. Arriver à d'abord identifier quelles sont les bonnes données, et parfois les générer parce qu'elles n'existent pas. On a tout un nouveau travail sur expérimenter à l'éducation nationale, susciter de nouvelles expérimentations parce que notre école en a besoin pour progresser, voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas. Et puis ensuite, faire la médiation. Et là, c'est un travail qui doit se faire en collaboration très étroite avec les enseignants, voir ce qui est compréhensible, ce qui n'est pas compréhensible, ce qui colle et ce qui ne colle pas. On ne voit pas tout de suite, évidemment, les artefacts dans les données éducatives. Et c'est souvent des enseignants qui me disent « Non mais alors, attendez, ce test-là, il n'a pas été bien passé, parce que vous nous aviez demandé de le faire passer en une minute, mais on ne peut pas, alors on l'a fait passer en deux minutes, alors les données sont faussées, etc. » Donc on a cette discussion en permanence, c'est très très important. Il n'y a pas de bonne science avec une acquisition à distance de données abstraites qui serait diffusée sans digestion par des scientifiques. C'est très important d'avoir ce recul du scientifique. Et c'est là que le cerveau du scientifique est plus important que jamais.
Et alors, il y a aussi, parce que vous dites que sur Twitter, il y a de très bons vulgarisateurs scientifiques. Il y a effectivement de très bons vulgarisateurs scientifiques. Il y a aussi toutes sortes de théories, il y a aussi toutes sortes de craintes qui s'expriment. Et lorsque l'on vit dans un monde qui est soumis finalement à des probabilités, prenez par exemple la question du vaccin AstraZeneca avec des cas qui sont des cas extrêmement rares, mais qui sont des cas très graves d'effets secondaires liés à ce vaccin. Justement, comment envisager les choses? Comment faire prendre conscience des probabilités, des risques, du danger avec des notions différentes à chaque fois? Est-ce que ça, c'est quelque chose d'aisé? Stanislas Dehaene.
Tout à l'heure, on parlait du rapport d'Elena Pasquinelli et Gérard Bronner sur éduquer à l'esprit critique, qui est disponible sur le site du Conseil scientifique. Ça peut paraître abstrait d'éduquer à l'esprit critique, mais ici, ça s'applique extrêmement bien sous forme concrète. Un des aspects de l'esprit critique, c'est d'avoir le réflexe de se poser la question « Oui, mais sur combien ?» Il y a 3 personnes qui sont mortes à la suite d'un vaccin. « Oui, mais sur combien ?» Sur des millions de gens qui ont été vaccinés. Ah ! Alors, est-ce que c'est significatif ou pas? Tout de suite, on doit se poser la question, vous voyez, ce sont des termes scientifiques. Proportion, statistiquement significative ou pas? Il faut à ce moment-là avoir un groupe contrôle. Alors, qu'est-ce que c'est le groupe contrôle? Ce sont des gens qui ne sont pas vaccinés. Est-ce qu'on en a? Est-ce qu'on peut savoir quel est le taux d'accidents similaires chez des personnes qui ne sont pas vaccinées? C'est ça l'esprit critique, c'est ça l'esprit scientifique, c'est ça qu'on peut insuffler chez les enfants, vous voyez, dans tous les domaines. Donc, on peut imaginer des enseignants qui aident les enfants à poser ces questions dans un contexte particulier, dans un cours de géographie, par exemple, et qui ensuite leur disent, vous voyez, il y a un aspect général dans ce qu'on vient d'apprendre. Systématiquement, tu dois te poser la question, quelle est la proportion? Ça veut dire que nos élèves comprennent aussi ce que c'est qu'une fraction. Hein. Ça ne va pas de soi. Il y a des choses assez difficiles, il y a des concepts là qui ne sont pas bien maîtrisés. On a des nouvelles données, je vous les livre, c'est malheureusement un peu pessimiste et triste, mais nous avons quantifié au Conseil scientifique la connaissance des fractions en sixième. Et ce sont des données qui ne sont pas encore sorties, mais qu'on va essayer de sortir prochainement. Donc, on fait un test extrêmement simple, mais qui n'est pas très familier des enfants. On leur montre une ligne qui va de 0 à 5, qui est gradué avec 1, 2, 3, 4. Et puis, on leur donne des chiffres. Et puis, on leur donne aussi des fractions. Où est-ce que tu mettrais un demi? Eh bien, 2/3 des élèves de 6e n'ont pas été capables, en début de 6e, de placer un demi au bon endroit, c'est-à-dire au milieu, entre 0 et 1. 2/3 des élèves. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez pas comprendre les proportions qui sont en jeu dans l'épidémie. Donc, ce sont des outils mentaux absolument essentiels. Ce que doit réussir notre école, c'est à fournir aux élèves des outils mentaux tels que les proportions, les fractions, les nombres décimaux, les graphes, etc. C'est la base même de l'esprit critique, de l'esprit scientifique.
Stanislas Dehaene, il est largement question dans nos sociétés en temps normal du rôle des écrans, de leur nuisance. Mais alors là, avec la crise sanitaire, les écrans ont pris une place autrement plus importante. Et lorsque l'on étudie là aussi les conséquences de ces écrans sur les processus d'apprentissage et... bien évidemment sur la manière dont ils peuvent modeler le cerveau des enfants. Que peut-on dire aujourd'hui à ce sujet ?
Écoutez, effectivement, avec l'épidémie, du jour au lendemain, on a arrêté de parler de ce problème des écrans, et on a eu raison. C'était une discussion ridicule qui avait lieu avant l'épidémie. L'écran d'aujourd'hui, c'est le papier, c'est les papiers d'hier. C'est aussi simple que ça. Alors sur du papier, on peut écrire des choses vraies ou des choses fausses. Il n'y a pas d'effet d'écran en général. Il y a un effet des contenus qui sont véhiculés par les écrans, et il y a effectivement un effet d'aspiration des enfants qui est négatif vers certains contenus qui sont conçus explicitement par des sociétés pour être addictifs. Donc c'est là qu'il faut se poser la question. C'est pas l'effet des écrans en général. Il y a d'excellents logiciels pédagogiques qui peuvent être utilisés chez les petits. Il y a des effets des écrans très positifs lorsqu'ils sont utilisés dans des logiciels pédagogiques pour l'apprentissage du vocabulaire, par exemple. Et ça peut être fait dans des âges assez petits, vers 3 ans. Et c'est très positif. Le grand problème des écrans, c'est le contrôle du temps. Il faut avoir un bon contenu, mais il faut aussi s'assurer que l'enfant ne soit pas aspiré dans une situation où il ne se rend même plus compte du temps qui passe. Et évidemment, il ne sort plus dehors, il ne fait pas d'autre chose.
Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir cette... Pardonnez-moi, je vous ai coupé, mais on peut avoir cette sensation-là également avec la lecture. Lorsqu'on est plongé dans un livre, on peut perdre...
Bien entendu.
Mais dans ces conditions, on ne dit pas qu'avec la lecture, c'est quelque chose de néfaste de perdre la sensation du temps, Stanislas Dehaene ?
Mais bien entendu, et je trouve qu'on a une attitude assez relaxe vis-à-vis de la lecture, on a raison. C'est extrêmement positif ce que l'enfant apprend en lisant. Alors j'imagine que peut-être Madame Gutenberg, à l'époque, je plaisante, mais c'était affolé de voir que ses enfants emmenaient des livres dans leur lit et passaient leurs heures dessus. On a la même réaction négative vis-à-vis de toute nouvelle technologie.
Je ne sais pas comment les Gutenberg élevaient leurs enfants, mais en tout cas, à ma connaissance, y compris lors de l'invention de ce monsieur, personne n'a pointé du doigt des risques éventuel, ce qui veut dire que
ça n'est pas vrai. Il y a eu des risques. Il y a eu tout un débat philosophique sur les méfaits de l'apprentissage de la lecture, parce que l'idée était que ça allait tuer la mémoire. Alors ça n'est pas vrai. On sait maintenant qu'au contraire, les personnes qui ont appris à lire ont une meilleure mémoire. Mais effectivement, il y a eu un débat. Il y a toujours des débats avec l'introduction de nouvelles technologies. On l'a vu avec les calculettes également. Les calculettes vont détruire la capacité de calcul des enfants. Bien sûr que non. Ça n'est pas comme ça. Ce sont des outils pour compléter ce qu'est capable de faire notre cerveau.
Non, la critique de l'écrit chez Platon, effectivement, qui est souvent invoquée. Mais lorsque l'on voit cela, on se dit qu'avec les écrans, ça n'est pas parce que la critique est récurrente qu'elle est nécessairement aujourd'hui hors de tout propos. Il peut y avoir de bonnes critiques qui, in fine, pointent du doigt une technologie qui est véritablement risquée, Stanislas Dehaene.
Oui, vous avez raison, il faut regarder, c'est aussi simple que ça, il faut regarder, et il faut regarder en arrêtant de parler des écrans, c'est un terme ridiculement large, il faut regarder au cas par cas tel logiciel qui m'est proposé, est-ce qu'il fonctionne, est-ce qu'il ne fonctionne pas, est-ce qu'il a un effet pédagogique ou bien un effet plutôt négatif. Et on s'aperçoit que beaucoup de nos idées sont chamboulées. D'abord, oui, il y a d'excellents logiciels qui font leurs preuves dans les classes. Mon laboratoire en développe un d'ailleurs. Et ce qu'on fait, c'est des expériences randomisées contrôlées. C'est-à-dire que la moitié des élèves jouent avec ce logiciel et l'autre moitié des élèves jouent avec un logiciel de contrôle qui porte sur autre chose. Et on voit que oui, les progrès des enfants sont réels. Ils ne sont pas énormes non plus, mais ils sont réels. Et puis même sur des situations comme les jeux vidéo, y compris les jeux vidéo violents, et on peut faire des expériences. Est-ce que réellement la violence des enfants augmente après avoir joué à des jeux vidéo violents ? Il semble que non. Ça fait l'objet d'un débat, mais il semble que les données soient assez convergentes maintenant pour dire que non, c'est pas vrai, les enfants ne deviennent pas violents. Par ailleurs, il y a des effets positifs sur l'attention. Les enfants qui savent jouer à des jeux vidéo deviennent extrêmement attentifs aux détails, ils ont une capacité de réaction, un temps de réaction exceptionnellement rapide, et ça généralise à des décisions qui ne sont pas celles du jeu vidéo. Mmh. Donc ce sont plutôt des effets positifs, donc effectivement, il faut regarder au cas par cas.
Bon, Stanislas Dehaene, un mot de conclusion. Bon, il y a un vigoureux plaidoyer pour des écoles ouvertes chez vous. Évidemment, vous tenez compte de l'épidémie, mais c'est quand même le message principal.
Absolument, un plaidoyer en général pour l'éducation, un plaidoyer pour la mobilisation pour l'éducation, parce que je vous ai parlé des maths, j'ai pas assez parlé de la situation dramatique de la France dans ce domaine. Nous sommes les derniers de l'Europe en maths, en quatrième, dans la dernière enquête TIMSS. Il devrait y avoir une mobilisation beaucoup plus grande. Alors on l'a en ce moment, les enseignants sont extrêmement mobilisés pour justement résister à l'épidémie. Il faut que ça continue et il faut qu'on arrive à profiter de cette période d'épidémie pour mieux modifier notre système pour répondre à ces défis. Parce que là, actuellement, en Europe, nous sommes très loin de pouvoir donner des leçons à nos collègues des autres pays.
Eh bien, vous l'avez dit. Merci beaucoup, Stanislas Dehaene, d'avoir été avec nous ce matin.